Gros merci à Alain et à Jonathan qui ont travaillé très fort hein, pour installer nos parleurs, notre nouveau système. Merci beaucoup. C'est super. Le son est vraiment, vraiment meilleur. Excellent. OK. Pardon. Je vais essayer de ne pas trop tousser, là. Désolé. Donc, on est encore dans notre série, ça tire à sa fin, sur la résolution des conflits. Encore une semaine ou deux, puis on va passer à d'autres choses. Mais j'espère que cette série vous a plu, mais surtout qu'elle vous a aidé dans la gestion des conflits, la résolution des conflits. Parce que l'Évangile, c'est l'histoire d'un conflit résolu, n'est-ce pas? Un conflit qui nous séparait d'avec Dieu. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dit la parole. Donc, l'Évangile, c'est une belle histoire de réconciliation. Donc, ce matin, on va poursuivre avec... Cette idée de bénir nos adversaires. Et le titre du message, c'est « Bénir nos adversaires vraiment ». Donc, dans le cours, vous savez, là, on a les 5 R, « Rendre gloire à Dieu » quand une situation qui éclate, un conflit qui éclate. Souvent, c'est la dernière personne à qui on pense, c'est Dieu. Mais il faut s'arrêter, inviter Dieu à faire partie de la situation. Et s'interroger comment je peux glorifier Dieu dans cette situation-là. Ensuite, la tendance naturelle de chaque être humain, c'est de voir la poutre dans l'autre, voir les fautes de l'autre. Mais Jésus nous instruit de premièrement regarder à nous-mêmes, dans chaque conflit, de regarder à notre part de responsabilité. Je peux avoir juste 2% de responsabilité dans la situation, mais je suis à 100% responsable de ce 2%-là. Ensuite, on a regardé à comment relâcher la dette. Dans notre cœur, c'est important de pardonner, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est l'amertume qui vient s'installer dans notre cœur. Et vous écouterez le message sur pardonner. Comment arriver à pardonner vraiment? Il y a la notion de dette là-dedans qui est centrale. Quand on parle de pardonner, c'est vraiment de relâcher une dette. Et c'est ça le vrai sens de pardonner. Et comment on fait pour relâcher cette dette-là? Vous irez écouter le message. Ensuite, on a parlé de redresser avec douceur. Encore là, l'instruction de la parole de Dieu va vraiment à l'opposé de notre nature humaine. Quand on veut corriger quelqu'un qui nous a fait mal, c'est souvent avec colère, c'est souvent par esprit de vengeance, c'est souvent pour se justifier, souvent pour avoir raison et montrer à l'autre ses torts. Mais Jésus dit, va, parle à ton frère de sa faute, et si il t'écoute, tu as gagné ton frère. Là, on parle de motivation d'amour, quand on parle de redresser avec douceur et amour dans la perspective du bien de l'autre. Parce que l'autre qui a péché, ben, il ne peut pas être bien parce qu'il a péché, là. Alors, on voit encore là comment c'est différent lorsque l'Évangile pénètre dans chaque coin de notre cœur, n'est-ce pas? Amen. Puis là, on est rendu au dernier point qui est rechercher la réconciliation. Donc, notre frère Robert nous a entretenu de ce dernier point il y a quelques semaines dans son excellent message « Vaincre le mal par le bien ». Et je croyais important de m'attarder encore un petit peu à ce point-là, parce que c'est tellement important dans nos relations, particulièrement nos relations brisées. Et il y a un élément dans la recherche de la réconciliation qu'on n'a pas regardé encore vraiment. Que ce soit au début du processus ou lorsqu'on a, tu sais, au début, on fait juste prendre conscience qu'il y a un conflit. Bon, on passe à travers les 5 étapes et puis peut-être que rien semble avoir marché. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. ben moi, je l'ai vécu. Un conflit éclate, là, je m'arrête. Si Seigneur, c'est quoi ta volonté? Comment je peux glorifier là-dedans? C'est quoi ma part de responsabilité? J'arrive à pardonner en allant à la croix puis à amener la dette que la personne me doit. Je retire la poudre de mon œil, je fais une confession adéquate, et puis là, il n'y a rien qui marche. Avez-vous vécu ça? Oui, hein? Il y en a qui ont vécu ça. Quelle attitude devrions-nous avoir lorsque les choses ne semblent pas marcher? L'amour, allez-vous me dire? Oui, c'est certain, l'amour. Mais il y a un aspect pratique de l'amour qu'on va regarder ce matin, c'est celui de bénir. C'est celui de bénir notre adversaire, entre guillemets. Puis là, j'ai mis cette image-là, le petit chiot avec le petit chaton qui se regarde. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça peut virer des deux bords. Hein? On dirait dans la photo, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il se regarde. Est-ce que c'est la chicane qui va éclater ou c'est l'harmonie? Est-ce que le petit chiot va choisir de bénir le petit chaton? C'est comme ça nos relations souvent. Hein? On est tenté de céder à notre chair, de céder à ce que notre nature humaine ferait, à ce qu'on a toujours fait. À reprendre le même sillon, surtout quand on a fait toutes ces étapes-là puis on dit que ça n'a pas marché. Bon, ça veut dire que cette affaire-là, c'est bon rien, ça ne marche pas. Puis là, on va reprendre nos vieux sillons. Faites pas ça. Faites pas ça. Alors, ce matin, on va regarder un passage clé. Mais avant, voici ma phrase sommaire. Jésus m'appelle à bénir ceux avec qui je suis en conflit. Cette attitude de bienveillance dans mon cœur à l'égard de l'autre reflète son cœur et à quel point j'ai été béni à travers l'Évangile. Fait que c'est comme j'ai dit, si vous voulez prendre juste ça, cette phrase-là, l'écrire, partir avec ça, vous allez avoir le résumé de tout l'âge. Okay? Jésus m'appelle à bénir ceux avec qui je suis en conflit. Et c'est une attitude de bienveillance dans mon cœur à l'égard de l'autre qui reflète son cœur et à quel point moi j'ai été béni à travers l'Évangile. Alors, Jésus nous dit, dans Luc 6, 27, 28, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Dans la version sommaire, c'est marqué « Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Ensuite, c'est repris dans Romains 12, 14 par Paul. Paul nous dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Dans la version sommaire, « Demandez à Dieu de faire du bien à bénir. » Et finalement, Pierre le reprend dans 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Et après avoir lu ces versets-là, moi j'ai besoin de prier. Seigneur Dieu, ta parole est la lumière à nos pieds et une lampe sur notre sentier. Seigneur, on a besoin de toi. Ces consignes que nous donne, Seigneur, sont au-delà de notre portée. Mais merci de nous les donner. Merci de nous instruire ce matin. Et Seigneur, ce matin, on veut entendre ta voix. On repousse toute autre voie en ton nom, Seigneur Jésus. Viens changer nos cœurs, changer nos pensées, changer nos motifs. Viens, Seigneur, te manifester nous, manifester à nous, manifeste ta gloire, Seigneur. Fais luire sur nous ta face. Pour la gloire de Jésus. Amen. Je pensais à ça, puis j'ai jamais entendu de message sur bénir. Jamais. C'est quoi bénir? Ben c'est ça. Ce matin, on va regarder qu'est-ce que signifie de bénir? Comment bénir? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et pourquoi bénir? OK? Ces quatre points-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Est-ce que ça change quelque chose? Et pourquoi je le ferais? Surtout envers mes adversaires. Qu'est-ce que ça signifie bénir? Mais la toute première fois qu'on voit ce terme dans la Bible, c'est Dieu qui le dit. C'est au premier chapitre du livre de Genèse, au verset 28. Dieu les bénit en parlant d'Adam et Ève, en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître. » Donc, Dieu les bénit, deux points, et voici comment il les bénit. Il dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître, etc. » Donc, la bénédiction, c'est ça. Dieu a dit, faites ceci, que ceci arrive, vous arrive. Et est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Alors, le terme bénir en hébreu, c'est le mot barak. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Barak? Oui, c'est de là que vient son nom. Vous ne saviez pas, hein? Bon, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire béni ou bénir. Barack Obama. Puis en grec, c'est traduit eulogia. Eulogia qui veut dire prononcer le bien. Eu, ça veut dire bien ou bon dans le latin, dans le grec. À chaque fois que vous voyez eu, ça veut dire bon. Comme évangile, c'est euangelion en grec. C'est la bonne nouvelle. Eulogia, ça veut dire parole. Alors, c'est une bonne parole, prononcer le bien sur quelque chose ou quelqu'un. Ça contient la racine du mot bien dans le grec et dans l'hébreu. OK? Alors que le mot maudire, ben vous avez dans le français l'idée du mal, mot, mauvais dedans, et dire. Hein? Donc, ça, c'est la traduction de l'inverse, de la malédiction. Fait que, bénir, ça veut dire prononcer le bien sur quelque chose ou quelqu'un. Vous savez, parfois, on va employer l'expression « je te souhaite hein, », « je te souhaite de passer une belle journée »,« je te souhaite bonne chance »,« je te souhaite bon voyage »,« je te souhaite bon rétablissement ». Est-ce que c'est ça, bénir? Non. Non, ça, c'est pas bénir. Ça, c'est souhaiter quelque chose, c'est désirer quelque chose. Mais est-ce que c'est bénir? Non, pas tout à fait. Il y a l'aspect d'un désir là-dedans, et dans le fait de bénir, il y a aussi un aspect de désir, de vouloir. Mais il y a beaucoup plus que cela dans l'aspect de bénir. Et ça n'a rien à voir avec la chance. Quand on dit « je te souhaite bonne chance ». Parce que la Bible nous montre clairement que lorsque Dieu bénit, lui, lorsque Dieu prononce le bien sur quelqu'un ou sur quelque chose, ça arrive, ça change quelque chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est puissante et elle n'a jamais failli à produire l'effet voulu par Dieu. Lorsque Dieu parle, des choses changent. Par elle, par la parole de Dieu, le monde fut créé, et par elle, la foi est suscitée en nous, jusqu'à produire la vie éternelle en la personne qui la reçoit. Amen. Amen. Donc, en rapport avec l'action de bénir, celui ou celle que Dieu bénit est vraiment béni. On le voit avec Abraham, hein? Dieu le bénit, et il devient un homme très riche et puissant dans son temps. Dieu bénit également Isaac et encore Jacob, même résultat. Dieu bénit David, il devient un roi puissant et riche, il domine tous ses ennemis. Son fils encore plus, même résultat. Et en fait, tous ces hommes-là ont hérité de la bénédiction d'Abraham et ont reçu leur propre bénédiction également. Maintenant, le Seigneur Jésus nous dit dans ce passage de Luc 6 qu'il veut qu'on bénisse ceux qui nous maltraitent, qu'on bénisse ceux qui nous maltraitent. Et Paul et Pierre répètent la même consigne. Ce n'est pas juste de rien dire. Ce n'est pas juste de ne pas riposter, qui demande déjà la force du Saint-Esprit. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un vous injure, quand quelqu'un vous insulte, de ne pas riposter, c'est déjà une force majeure. C'est déjà un exploit qui relève du contrôle de soi. Contrôle qui est produit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puis Jésus est notre exemple là-dedans. 1 Pierre 2, 23, Pierre nous dit, « Injurier, il ne ripostait pas par l'injure, Jésus. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. » Essayez-le pour le fun. Quelqu'un vous fait souffrir, quelqu'un vous fait un mal, vous ne ripostez pas et vous ne menacez pas. Déjà là, c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Mais regardez ce qu'il dit. Injurier, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, Jésus, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Fait que là, on parle de la souveraineté de Dieu, d'une confiance totale, que Dieu va s'occuper de moi, peu importe ce que l'autre me fait. Tout se passe sous le regard de Dieu. Et Dieu n'a pas perdu le contrôle. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça, on l'a déjà entendu. Hein? Vous avez déjà entendu là, ces choses-là. Mais là, ce matin, on va un pas plus loin encore. Et ça, je suis à peu près certain que vous ne l'avez pas entendu. Moi, je n'ai jamais entendu, en tout cas. Ça va plus loin encore. Non seulement il ne faut pas riposter, mais Jésus me demande de bénir mes ennemis. Ouh. Oh! Appelez la bénédiction divine, dit le texte de la version du Semeur. Ici, un parallèle avec la règle d'or, n'est-ce pas? Vous vous rappelez là, comment est-ce qu'on a examiné la règle d'or? La règle d'or, les gens souvent vont dire « Fais pas de mal aux autres que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. » Ce n'est pas ça la règle d'or. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. « Ah, je ne fais pas de mal à personne. Moi, je suis bien. Je suis correct. Je ne fais pas mal à personne. » C'est ça la règle d'or. Non, ce n'est pas ça la règle d'or. Jésus dit « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. » Oh, oh là, ça m'engage. Là. C'est ça la règle d'or. Bien ici, c'est un peu pareil. C'est pas de dire, regarde, si tu insultes, réplique pas, si tu injures, menace pas. C'est bon, c'est nécessaire, c'est spirituel, c'est surnaturel. Mais c'est pas juste ça. Jésus dit, maintenant, je veux que tu les bénisses. Wow! C'est actif. Je pense que la plupart d'entre nous avons compris la consigne de Jésus comme « ne rétorque pas, ne dis rien de mal ». Mais ça ne s'arrête pas là. Il veut que tu bénisses, que tu dises des choses positives. Ah oui? Ah oui? Tu es sérieux? Ben, c'est pas moi qui est sérieux, c'est Jésus qui est sérieux. Mais comment on fait pour bénir, c'est ça qu'on a vu là. Je souhaite que, est-ce bénir? Non. C'est quand on invoque la personne de Dieu, comme on a vu. Bénir versus souhaiter. OK? comment on fait pour bénir? Tu me dis, Brian, Jésus nous demande de bénir nos enfants. C'est quoi cette affaire-là, bénir? C'est quoi tu veux dire? Qu'est-ce qu'on dit? Bien, je vais vous donner des exemples. Ici, dans le nombre 6, on a la bénédiction lévitique que Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron et à ses descendants, vous allez bénir mon peuple de cette façon-là. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. OK? Fait que c'est des paroles qu'on prononce. Quand Jésus dit « bénissez vos ennemis », c'est une parole que tu vas leur dire. OK? C'est une parole. Ici, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz « que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » OK? Ça, c'est la bénédiction lévitique. Dans la version Semeur, « Que l'Éternel te bénisse et te protège. » Te bénisse et te garde, te protège. « Que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. » Donc, on a ici des bénédictions de protection, de bonté, de paix. C'est des exemples de bénédictions. Que Dieu te protège, que Dieu te fasse du bien, que Dieu veille sur toi, qu'il te donne la paix. C'est des exemples de bénédictions que Dieu nous donne dans sa parole. Et Dieu déclare qu'il va baquer. Il va baquer ce que les Lévites vont dire comme bénédiction. C'est-à-dire que ce ne sera pas des paroles qui vont être en l'air. Dieu va faire arriver ça. Lorsque ces prêtres-là vont dire, prononcer la bénédiction sur le peuple de Dieu, Dieu dit, moi, je vais le faire arriver, là. Ça va être efficace. OK? C'est fou. Parce que là, tu as des êtres humains qui prononcent des paroles et Dieu va agir à travers ces paroles. Ici, une autre bénédiction, je ne sais pas si je l'ai marqué. Isaac, lorsqu'il bénit son fils Jacob, a parlé en ces termes. Que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin, que les nations te soient assujetties, que devant toi les peuples se prosternent. Sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira et béni soit qui te bénira. On voit ici des bénédictions de productivité, d'abondance, de succès militaire et d'honneur. Isaac a prononcé des paroles de bénédiction sur son fils Jacob. Et ces choses-là se sont réalisées. Wow! Les paroles d'un homme. Les paroles d'un homme se sont réalisées dans la vie de son fils. Comment ça se peut, ça? On va le voir tantôt. Juste avant sa mort, Jacob, à son tour, bénit ses fils. Hein, dans Genèse 49, il prononce de bonnes choses sur chacun d'eux. Enfin, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas été faits, mais presque tous. Et ces choses-là se sont réalisées, encore une fois. Se sont réalisées. Donc, bénir. Bénir, c'est prononcer des choses de bien sur quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? Mais non. Vous en doutiez, hein? Vous en doutiez. À chaque fois qu'il est question de bénédiction, cette bénédiction doit concorder avec la volonté générale de Dieu, n'est-ce pas? Soit sa volonté générale, comme la bénédiction lévitique, hein? Ça, c'est une bénédiction générale pour l'ensemble du peuple. Ou soit avec sa volonté spécifique, comme dans le cas de Jacob avec ses fils. Jacob a, si on peut ainsi parler, taillé la bénédiction là, à mesure, sur mesure pour chacun de ses fils, pour chacune de leurs situations. Une bénédiction spécifique à la personne et à sa situation. Donc, on voit ça dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui l'invente. On voit ça. Alors, on peut prononcer des bénédictions de volonté générale, protection, bonté, santé, prospérité, ou spécifique à la personne et à sa situation. As-tu déjà fait ça? Pourtant, Jésus nous demande de le faire. Pourtant, il nous demande de le faire. Il nous demande de le faire même pour nos ennemis. Wow! Peut-être que si on ne le fait pas envers nos ennemis, c'est parce qu'on ne l'a pas mis en pratique tout court. Et sinon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous partage une petite confidence. Depuis quelques années, je ne sais pas combien d'années que ça fait, mais à chaque matin, lorsque je m'étire, parce que je fais des étirements à chaque matin, je prononce la bénédiction lévitique sur ma femme. Je dis « Que l'Éternel te bénisse et te garde mon amour, qu'il fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il veille sur toi et qu'il te donne la paix. » Amen. Et très souvent, avant de partir travailler, mon épouse va me dire « Que l'Éternel bénisse le travail de tes mains. Qu'il te donne la force et un pas léger. » Des choses semblables. Et Dieu répond. Dieu répond. Mais pourquoi on ne le fait pas plus souvent bénir? Ou peut-être pas du tout. Peut-être parce qu'on n'en a pas l'habitude. Peut-être qu'on dit, bah, c'est pour les pentecôtistes, ces affaires-là. Bénir, prophétiser, c'est pour les pentecôtistes, ça. Ah oui, ah oui. Il y a des passages dans la Bible, c'est réservé pour les pentecôtistes. Ben voyons donc. Donc, Jésus, Paul et Pierre nous enseignent, mais c'est pour les pentecôtistes. C'est pas pour nous. Pas pour les baptistes, ça. Ben voyons donc. Il y en a qui, il y en a qui rient. Si vous voulez éviter cet enseignement-là, dans le même verset, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Il faut éviter ça aussi, là. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste découper, là, bénir là, vos adversaires, puis laisser prier. Ah, prier, ça, c'est correct. Ça, on est correct. Oui, il faut prier pour nos ennemis. Ça, c'est biblique. Ça, on pratique ça. Mais bénir nos adversaires, non, non, non. Attends un peu, là. Ça ne marche pas, là. Tu découpes une partie de la parole. Et c'est pas juste Jésus. OK, c'était juste pour Jésus et ses apôtres dans ce temps-là. Puis après ça, ben l'Église... Non, non, parce que Paul il le répète. Pierre le répète. Faut que tu découpes ces versets-là aussi. Bénir. Puis c'est pas juste parce que des fois, on a la notion que bénir, c'est dans notre être, c'est d'être une bénédiction. Oui, oui, ça fait partie. Mais ce n'est pas juste ça, c'est de prononcer, comme on a vu. C'est de prononcer, c'est de dire des paroles. OK, vous allez me dire, Brian, prouve-moi là. Bien, dans le texte qu'on a vu, maudissez pas. Comment tu fais pour maudire? C'est par la bouche. Maudissez pas, bénissez plutôt. Bien, ça veut dire que c'est par la bouche, là. Ah, OK. J'ai jamais entendu d'enseignement là-dessus, vous? Jamais. Pourtant, c'est là. C'est là. Bon, OK, OK, Brian. Le Seigneur veut que je bénisse. T'es convaincu? T'es convaincu que le Seigneur veut que tu fasses ça, là? Que tu parles, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te fasse prospérer. Prospère l'œuvre de tes mains. Tu es convaincu maintenant que c'est ça la volonté de Dieu? Mais Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Bien, premièrement, vous allez vous en douter, je vais vous dire, premièrement, ça change la disposition de mon cœur. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Parce que comme on a vu tantôt, la tendance naturelle, ça va être de répondre par le mal. Si on me fait du mal, je vais répondre par le mal. C'est notre tendance naturelle à chacun de nous. Ou si je ne réponds pas par le mal, je dis OK, Seigneur, je ne réagirai pas, là, il a été méchant avec moi, il n'a pas été fin, il m'a dit des insultes, il ne m'a pas respecté, je ne réponds pas, je ne riposte pas, c'est ça que tu veux. Mais dans mon cœur, par exemple, là, ça bouillonne. Et là, j'ai quasiment envie qu'il arrive quelque chose de mal. Je ne demanderai pas à ça. Je ne peux pas demander à Dieu de faire quelque chose de mal. Mais dans mon cœur, là, je serais comme content. Hein? Je serais comme content, là, s'il arrivait quelque chose de mauvais. Dans le contexte d'un conflit, des gens qui ont de l'animosité envers moi, là, ma réaction naturelle sera quoi? Leur retourner la faveur, pas vrai? Donc, que Jésus me dise, « Brian, je veux que tu bénisses, que tu prononces des paroles. Prie pour eux, mais prononce des paroles pour leur bien. » Ouf! Bon. La première chose que ça change, c'est la disposition de mon cœur. Cela va me libérer de l'amertume qui est si destructive et risque de m'entraîner dans une prison spirituelle et affecter ma relation avec Dieu. Écoutez l'enseignement sur les dangers de refuser de pardonner. Mais ensuite, est-ce que réellement, le fait que je prononce des paroles de bénédiction, ça peut changer quelque chose dans la vie de l'autre? Parce que si on n'est pas convaincu de ça, là, est-ce qu'on va les prononcer? Pas sûr. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la vie de l'autre? Bon, on a déjà vu l'exemple d'Isaac qui a béni son fils Jacob. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui. On a vu Jacob qui a béni ses fils. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui. On aurait beaucoup d'autres exemples aussi. Que ça a changé quelque chose. Mais on pourrait tout aussi bien se poser la question par rapport à la prière, parce que dans le même verset, Jésus dit « Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent. » Fait que là, si tu me dis « Brian, ben là, moi, je ne commencerai pas à bénir mes adversaires, parce que ça ne change rien de toute façon. » OK, pourquoi tu pries d'abord? Est-ce que prier, ça peut changer quelque chose? Oui. Amen. Merci. Oui. Prier, ça peut changer quelque chose. En passant, j'espère que vous allez prier quand vous allez être en conflit. Priez pour vos adversaires. Mais bénir, c'est une autre affaire. En fait, prier, regardez ça, prier, c'est de parler à Dieu de la personne. N'est-ce pas? Seigneur, je te prie pour cette personne-là qui m'a fait du mal. Visite-la. Change son cœur. Révèle-toi à elle. Fais-lui du bien. C'est parler à Dieu de la personne. Alors que bénir, regardez bien ça, c'est parler à la personne de Dieu. C'est différent. Oh! C'est parler à la personne de la part de Dieu. Que Dieu te donne la paix. Si Dieu peut agir en réponse à nos prières, est-ce qu'il peut agir en réponse à nos bénédictions? Oui. Sinon, Jésus, il ne nous demandera pas de faire ça. Pourquoi nous demander de prier si ça ne change rien? Pourquoi nous demander de bénir si ça ne change rien? Un ne va pas sans l'autre. Là. Si tu es pour me dire, Brian, non, Moi, je ne le bénirai pas parce que ça ne change rien de toute façon. Ben, arrête de prier. Ce n'est pas logique, ton affaire. Mais si Dieu veut agir en réponse à la bénédiction que je vais prononcer, là, il faut drôlement que je sois convaincu que la parole que je vais prononcer vient de qui? Vient de Dieu. Hein? Là, je ne peux pas dire n'importe qui, là, n'importe quoi, là. Je te souhaite de gagner 49. Ben voyons donc, Brian. Que Dieu te fasse gagner le 649. Ben là, attends un peu, là. Pas sûr, là. Pas sûr, là. Oui. Non. Non. C'est ça, là. Parce qu'on peut souhaiter des choses, mais en bout de ligne, ça ne sera pas bien pour la personne. Tu sais-tu qu'est-ce qu'il y a de bien et de mal pour la personne? Ben, en général, oui. Mais si tu veux prononcer une bénédiction spécifique pour une situation spécifique, il faut drôlement que tu sois à l'écoute de qui? De l'Esprit de Dieu, là. De l'Esprit de Dieu. Pas vrai? Parce qu'on a vu qu'il y a des bénédictions générales puis des bénédictions spécifiques. Il faut toujours consulter l'Esprit pour savoir quoi prononcer en rapport avec une bénédiction spécifique. Et savez-vous quoi? La même chose s'applique à la prière. Des fois, on commence à prier puis on dit n'importe quoi, là, Dieu, là. C'est pas ça que la parole de Dieu nous a instruit. Prier selon l'Esprit. Ça veut dire quoi, ça, prier selon l'Esprit? Ça veut dire tu viens en présence de Dieu et attends un peu, là, avant d'ouvrir ta bouche, là, consulte l'Esprit pour qu'il dise qu'est-ce qu'il convient de demander à Dieu. C'est ça, prier selon l'Esprit. Vous savez qu'on peut prier selon la chair? Savez-vous ça? On arrive devant Dieu, puis on a toutes sortes d'affaires, puis ça vient de notre chair. Ça ne vient pas de l'Esprit. Prier selon l'Esprit, bénir selon l'Esprit. Même chose. Tout ce qu'on fait devrait être sous le contrôle de l'Esprit de toute façon. Pas vrai? Maintenant, est-ce que bénir va vraiment changer quelque chose? Bien, je vous dirais que c'est pas là ma responsabilité. C'est pas là ma responsabilité. C'est comme prier. Est-ce que ma prière va être efficace? C'est pas ma responsabilité. C'est Dieu qui va en décider, n'est-ce pas? Et la même chose pour la bénédiction. Maintenant, il y a des bénédictions inconditionnelles et il y a des bénédictions conditionnelles. Les bénédictions énumérées dans la loi de Moïse étaient toutes conditionnelles. Conditionnelles à leur obéissance. Si vous obéissez, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. Vous allez prospérer vos récoltes, etc. Vos femmes ne feront pas de fausses couches, etc. Mais si vous désobéissez, ben là, malédiction. Toutes les bénédictions dans la loi de Moïse. Là, on ne parle pas de la bénédiction d'Abraham, qui a précédé la loi de Moïse, qui, elle, était inconditionnelle. Mais les bénédictions dans la loi de Moïse étaient conditionnelles à l'obéissance, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, ça existe encore des bénédictions conditionnelles dans un sens pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus dit à ses disciples, « Allez-vous-en deux par deux, là, dans la mission, dans Luc 10. » Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. OK? Jésus dit, prononce une bénédiction en arrivant dans la maison, que la paix soit sur cette maison. Et si c'est un homme de paix qui est là, la paix va reposer sur lui. Dieu va agir en réponse à votre bénédiction. Mais si ce n'est pas le cas, regarde bien ce qu'il dit, elle reviendra à vous. Wow! Fait que la personne, elle, si elle n'est pas dans une situation de recevoir la bénédiction, elle ne recevra pas la bénédiction. La bénédiction va retourner à la personne qui l'a prononcée. Fait que ça, c'est une bénédiction conditionnelle. Conditionnelle. On dit que la paix soit sur cette maison, mais est-ce que ça va arriver? Peut-être, peut-être pas. Jésus donne les conditions pour que ça arrive. Donc ça, c'est une bénédiction conditionnelle. Ça n'empêche pas l'instruction du Seigneur aux disciples de la prononcer pareil. C'est la même chose dans le conflit. Lorsqu'on est en conflit, puis Jésus dit, « Bénissez vos ennemis. » Ouais, mais Seigneur, là, écoute un peu, là. Je vais les bénir. Ça ne sert à rien. Là. Ils sont complètement révoltés contre toi, Seigneur. Ça n'a pas d'allure. Ils ne veulent rien savoir de Jésus. Ça... Non, non. Jésus dit, « Bénis-les pareil. » Mais... c'est conditionnel. C'est conditionnel. Peut-être que cette bénédiction-là va tomber à l'eau parce qu'ils la refusent, parce qu'ils ne sont pas dans la situation pour la recevoir. Mais est-ce que ça change ma disposition de cœur? Non. Est-ce que ça change la consigne de Jésus de le prononcer pareil? Non. Parce que peut-être que oui, ils vont avoir la condition de cœur pour recevoir la bénédiction. Peut-être que oui, et on devrait souhaiter ça, n'est-ce pas? Amen! On va souhaiter qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur. S'ils s'humilient, s'ils recherchent le Seigneur, oui, la parole que je vais avoir prononcée va avoir son impact. C'est ça que Dieu dit. Donc, on parle ici d'une bénédiction conditionnelle. Bien sûr, il y a une bénédiction inconditionnel. Puis c'est ça qu'on s'en vient à regarder maintenant. Mais chose que ça change, on a dit que ça changeait. Ça change quoi le fait de bénir, de prononcer des paroles de bien sur la personne? Bien, premièrement, ça change la disposition de mon cœur. Deuxièmement, ça peut vraiment changer quelque chose dans la vie de l'autre personne. Et troisièmement, si je prononce ces paroles-là, c'est que normalement, c'est quoi là? Les bottines vont suivre les babines. Les bottines vont suivre les babines. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de prononcer, mais c'est que je sois en bénédiction à ces gens-là. Faites du bien, il dit. Mais alors, dernière question. Pourquoi bénir? Ben, premièrement, on a vu par l'obéissance aux instructions claires de la parole. Jésus, Paul, Pierre disent la même chose. Bénissez. Ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez vos ennemis. Mais comme dans toute chose, on peut obéir par devoir. On peut obéir par devoir. Comme annoncer la bonne nouvelle, hein? C'est la même chose. Je peux annoncer la bonne nouvelle par devoir. Je peux aller porte en porte, dire aux gens, croyez à ça, sinon vous allez en enfer. Voici la bonne nouvelle. Je le fais parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Levez la main tous ceux qui ont fait ça. Oui, moi je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi. Mais ici, la même chose. On peut... OK, le Seigneur me demande de bénir, je vais le faire, là, mais là, tu t'imagines-tu la situation de la personne, tu vas la bénir, puis tu vas te sauver parce que tu es tellement gêné, ben, tu le fais parce que tu es obligé de le faire. Mais non, ça ne donne rien, là. Tu as aussi bien le rejeter chez vous. Quelle est la motivation pour bénir et de surcroît mes ennemis? Il nous demande de bénir, de prononcer des paroles de bénédiction envers nos adversaires. Mais on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors la question est la suivante. Est-ce que tu as vraiment le bien-être de ceux qui t'entourent à cœur? C'est ça la question. On parle de prononcer des paroles de bien. Est-ce que tu as vraiment à cœur le bien-être de ceux qui t'entourent? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es centré sur toi-même, qu'est-ce qui va préoccuper les pensées de ton cœur? Le bien de ceux qui t'entourent ou ton bien à toi? Auras-tu leur bien-être à cœur et est-ce que ça sortira de ta bouche et surtout lorsqu'ils vont t'attaquer? Vous savez que je ne me rappelle plus des détails de l'histoire, il faudrait que je la relise, mais c'est une histoire de missionnaire Hudson Taylor qui était avec un jeune. disciple qui le suivait en mission. Puis ils étaient en bateau, puis ils étaient en train de préparer le thé, puis quelqu'un a brusquement sauté dans le bateau, a renversé le thé, et là, le jeune était fru de ça. Et Hudson Taylor a dit, « On ne peut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'un homme de meilleure façon que lorsqu'il se fait brasser. » Alors, qu'est-ce qu'on a découvert qu'il y avait dans le pot? Il y avait du thé. Pourquoi? Parce qu'on l'avait renversé. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur du jeune? Quand on l'a brassé, c'était pas le bien de l'autre, c'était son bien à lui. Si je n'ai pas le bien, si je ne suis pas préoccupé par le bien-être de ceux qui m'entourent, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche lorsqu'ils vont m'attaquer? Ça sera la bénédiction? Pas certain, hein? Mais l'autre question, c'est pourquoi on ne le fait pas avec nos proches? Pourquoi on ne le pratique pas? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Peut-être la gêne. On a peut-être peur de se faire rire de soi. Même avec nos proches, on peut être gêné de dire, chérie, que l'Éternel te donne la paix aujourd'hui dans ce que tu vas passer. Tu vas passer un examen, que l'Éternel fasse bien passer ton examen. On s'expose à quelque chose. Hein? On s'expose à quelque chose. On s'expose à se faire rire de nous-mêmes. On s'expose, on prend un risque, là, parce qu'on prononce une parole. Ça prend la foi. Et ça prend la confiance dans un Dieu souverain. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et si je ne le fais pas avec mes proches, est-ce que je vais le faire lorsque mes ennemis vont m'attaquer? Non, c'est comme toutes les autres, si on veut, disciplines de la vie chrétienne. Si tu n'as pas tendance à chaque jour à t'entretenir avec ton Père Céleste puis à lui présenter tes besoins, lorsque tu es dans le trouble, est-ce que c'est la première chose à laquelle tu vas penser? Non. Non. C'est la même chose avec la bénédiction. Si on n'a pas l'habitude de bénir nos enfants, nos proches, nos conjoints, nos conjointes, nos amis, bien, est-ce que c'est la première chose à laquelle on va penser quand le conflit va éclater? Absolument pas. Alors, par obéissance, oui, mais par amour. Puis, deuxièmement, c'est que, et c'est relié à ça, c'est que tu réalises à quel point tu es béni par Dieu. À quel point, toi, là, tu es béni. Plus tu te vois comme une personne bénie, plus tu auras le goût de bénir les autres. Plus tu te sens démuni, pauvre, pas chéri, pas aimé, moins tu auras le goût de bénir les autres. Pas vrai? Et c'est peut-être là un des problèmes fondamentaux de nos cœurs, frères et sœurs. Plus tu te sens comblé dans toutes sortes de bénédictions par Dieu actuellement et dans le monde à venir, plus tu auras envie de bénir les autres aussi, parce que tu vas dire, je suis riche, je suis tellement comblé, c'est que tu veux que ça me fasse, je vais donner, parce que je suis tellement bourré de bénédictions. Mais si tu ne conçois pas vraiment que tu es une personne bénie, tu ne le feras pas. Pas vrai? Tu recherches encore la bénédiction. Peut-être parce que tu crois que tu n'en es pas digne. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que les bénédictions qu'on a sont inconditionnelles. Hein, on a parlé tantôt, bénédiction conditionnelle, bénédiction inconditionnelle. Le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, nous dit Paul dans la Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a libérés de la malédiction. Le côté, quand j'ai dit la loi de Moïse, disait « si tu obéis, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Si tu désobéis, malédiction, malédiction, malédiction. » Christ nous a libérés de tout ce côté-là de la loi. Amen! C'est fini. C'est réglé. Ça a été cloué à la croix. C'est fini, la malédiction. Alors, il reste quoi? Il reste la bénédiction. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu au gibet ». Jésus-Christ l'a fait. Quoi? Il a fait quoi? Il est devenu malédiction pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. C'est qui ça? C'est moi, c'est toi. Et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu nous avait promis. Wow! Ce passage nous enseigne, mon cher frère, ma chère sœur, que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est bien parce qu'il n'y a plus de malédiction qui pèse sur toi et que tu as reçu la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham avant la loi, par grâce, pure grâce. Toute cette bénédiction-là t'appartient. Inconditionnellement. C'est confirmé dans Éphésiens 1, 3 à 5. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ. Fait que si tu es en Christ, tu es comblé des bénédictions de l'Esprit. Toutes les bénédictions de l'Esprit. Amen. Ce sont des bénédictions inconditionnels, immérités, qui ont été décrochés par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Pour toi. C'est lui qui les a mérités pour toi. Tu ne peux pas les mériter. Fait que là, si tu es comme un mendiant à espérer que Dieu va te bénir parce que peut-être qu'il ne bénira pas, peut-être que oui, peut-être que non, parce que je ne me sens pas digne. Là, cette semaine, je n'ai pas été fin avec ma femme, je n'ai pas été fin avec mes enfants. Peut-être que Dieu va me bénir, peut-être pas. Oublie ça, là. Oublie ça! Tu n'as pas compris à tel point tu es béni, comblé de bénédictions dans l'esprit par l'œuvre de Christ. C'est ça, la bonne nouvelle. Ce sont des bénédictions inconditionnelles. Décroché pour toi par Christ et ses mérites à lui. Tu les reçois par pure grâce, par la foi en Christ. Tu ne peux pas les mériter. Tu peux t'empêcher d'en tirer les bienfaits, par contre. Et là, je donne toujours l'illustration du parapluie. La bénédiction, c'est comme la pluie. Dieu envoie sa pluie à cause de Jésus. La pluie est là. Et ça tombe à verse, là. Ça tombe à ciot. C'est la bénédiction de Dieu qui tombe sur toi. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ça tombe, là. Mais, whoop, tout d'un coup, tu mets un parapluie. Comment ça? Tu as désobéi à quelque chose, tu en veux à quelqu'un, et là, tu te promènes. La pluie, elle tombe, là. Elle n'a pas changé, mais tu n'es pas capable d'en bénéficier. Comprenez l'idée? Fait que c'est pas qu'on fait quelque chose pour les mériter, elles sont là. On a juste laissé. Pardonne-moi, Seigneur. Voici ce qu'écrit Nancy Lee de Moss dans son volume Choisir le pardon, qui est excellent, puis je vous le recommande fortement. Elle dit, cela va plus loin. Nous sommes appelés à pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Bon, depuis le début du cours, on dit que la réconciliation, la résolution de conflits, c'est quoi appliquer? C'est l'Évangile appliqué. C'est l'Évangile appliqué. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a réconcilié avec lui, maintenant, sois de cette façon-là avec les autres qui t'entourent. OK? Fait qu'elle a dit, ça va loin, là. Nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Comment Dieu nous a pardonné? Il ne s'est pas contenté de nous dire, tu es pardonné. Non. Il a donné pour nous son Fils alors que nous étions ses ennemis. Il nous a attirés à lui alors que nous ne voulions rien savoir de lui. Ça, je vous avoue, là, ça m'interpelle. Parce que souvent, je veux, dans ma tête, je vous dis, oh, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Fait que, regarde, je laisse faire. Hein? Est-ce que Dieu, si Dieu aurait fait ça avec toi et moi, là, on ne serait pas là ce matin? Pensez-y. On ne serait pas là ce matin. On ne voulait pas plus savoir rien de Dieu, là. Donc, il nous a attirés à lui alors que nous ne voulions rien savoir de lui. Il a fait de nous ses enfants. Il n'a pas juste dit, OK, puis je te pardonne, c'est correct. Non, il nous a fait de nous ses enfants, des co-héritiers avec Christ. Et il a promis de jamais nous abandonner. Jour après jour, il nous encourage, il nous console, il pourvoit nos besoins, il nous comble de ses bienfaits. Cette grâce merveilleuse que, par définition, nous ne méritions pas, nous montre comment nous devons pardonner. Oh, ça va pas mal plus loin que je pensais, là. Ça va pas mal. Pardonner, c'est ouvrir tout grand les volets et les fenêtres de notre cœur et laisser, c'est merveilleux cette phrase-là, laisser la douce brise de la grâce de Dieu commencer son œuvre de guérison. Wow! Je répète, pardonner, c'est ouvrir tout grand les volets et les fenêtres de notre cœur et laisser la douce brise de la grâce de Dieu commencer son œuvre de guérison. Et j'ajouterai en moi et à travers moi envers l'autre. Lorsque nous faisons délibérément le pas de bénir ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire d'aimer nos ennemis, nous devenons capables d'expérimenter la pleine puissance du pardon. Amen. J'aimerais vous lire, avec ça on va terminer, une anecdote, une histoire vécue, qui est dans ce livre-là, Choisir le pardon. Durant la Seconde Guerre mondiale, Mitsuo Fuchida, capitaine de l'aviation de la marine impériale japonaise, pilote chevronné qui ne connaissait pas la peur, avait été choisi pour diriger la première vague d'avions participant à l'attaque sur Pearl Harbor. C'était le 7 décembre 1941. Bon, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, la guerre est en Europe, mais les États-Unis ne sont toujours pas en guerre. Hein? Ils sont toujours pas engagés dans la guerre. Mais là, le Japon attaque Pearl Harbor à Hawaï, attaque massivement la flotte américaine qui est là, qui est amarrée dans la baie. Et c'est lui, Mitsuo Fuchida. Il a donné l'ordre d'attaque à tous les avions de combat qui fendaient l'air à ses côtés. Tora, 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 ce qui veut dire tigre, 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 expression codée convenue pour déclencher l'attaque. Tora, tora, tora. Ce raid, qui a coûté la vie à 2300 marines américains, était, selon Fuchida, l'exploit le plus exaltant de sa carrière. OK. Tu vois le plan. Tu comprends le type? Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en 1949, soit moins de 8 ans après Pearl Harbor, ce kamikaze et spécialiste des attaques en piqué s'est converti à Jésus-Christ. C'est au travers de deux faits marquants que Dieu l'a conduit, contre toute attente, à se tourner vers lui. Peut-être quelqu'un a prié pour lui. Peut-être quelqu'un à Pearl Harbor a pensé à prier pour ces kamikazes japonais là, qui les attaquaient. Je ne sais pas. Mais imaginez-vous, prier pour un type comme ça. Le premier remonte un peu de temps après la guerre. Fuchida discutait avec un ami qui avait fait partie des prisonniers japonais envoyés aux États-Unis. Comme il était curieux de savoir comment les Américains avaient traité leurs prisonniers, cet ami lui a raconté qu'une femme volontaire de 18 ans s'était régulièrement occupée des Japonais en captivité, s'efforçant de répondre à leurs besoins et de leur faire du bien. Lorsqu'ils avaient demandé à cette jeune femme pourquoi elle se montrait si bienveillante à leur égard, elle leur avait répondu quelque chose de tout à fait surprenant et illogique. Elle dit « Parce que les soldats japonais ont tué mes parents ». Quoi? Au moment de l'escalade des tensions internationales à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, ses parents, alors missionnaires au Japon, avaient été pris pour des espions et avaient été décapités après avoir fui aux Philippines. Leur fille, qui avait été repatriée aux États-Unis, n'avait appris la vérité que 3 ans plus tard. Bien évidemment, cette terrible nouvelle avait provoqué en elle un profond chagrin, mais aussi un amer sentiment de colère. Cependant, connaissant ses parents, elle en était finalement venue à la conclusion qu'ils auraient pardonné à leurs assassins. C'était pour elle une certitude. Elle devait donc elle aussi pardonner à ses hommes. Et non pas seulement leur pardonner, mais écoutez, les bénir et leur faire du bien. Wow! Voilà pourquoi elle se trouvait dans ces camps des prisonniers pour aimer ses ennemis. Et j'imagine qu'elle parlait le japonais, je ne sais pas, mais... Cette conception des choses a sidéré Fuchida. Comment quelqu'un pouvait-il agir envers ceux qui avaient été responsables de la mort de ses parents? Ensuite, un jour, plusieurs années après, alors qu'il attendait le train, quelqu'un lui a donné un petit feuillet qu'il aurait probablement jeté s'il n'avait été écrit par un aviateur. C'était le témoignage du pilote américain Jacob DeShazer, qui, lors du premier bombardement de Tokyo, mené par les États-Unis en riposte à l'attaque de Pearl Harbor, avait été contraint d'abandonner son avion et de sauter en parachute. Rapidement capturé par les forces militaires japonaises, il avait passé 3 années de cauchemars à subir des tortures, à souffrir de la faim, à avoir des co-détenus envoyés l'un après l'autre à la mort. Dans la terrible solitude de sa minuscule cellule, il était ravagé par la haine. Cependant, au bout de 2 ans d'emprisonnement, on lui avait fait passer quelques livres à lire à la faible lueur de sa cellule, dont une Bible. Comme la lumière jaillissait dans les ténèbres, la parole alors avait pénétré son cœur. « Aimez vos ennemis », avait-il lu, Matthieu 5, 44. Ce verset si clairement adapté à sa situation l'avait particulièrement touché. Transformé par la grâce de Dieu, de chez eux avait commencé à parler avec respect à ses gardiens, même lorsque ceux-ci l'humiliaient et se montraient cruels envers lui. « J'ai demandé à Dieu de m'aider à pardonner à mes bourreaux », écrivait-il dans son témoignage, et j'ai décidé de faire de mon mieux avec l'aide de Christ pour leur faire connaître le message du salut, les bénir. Saisi par ce qu'il venait de lire, Fuchida s'est empressé d'acheter une Bible. Il désirait vérifier par lui-même d'où venait cet étrange commandement « Aimez vos ennemis ». C'est ainsi que, finalement, il a donné sa vie à Christ et qu'il est devenu évangéliste. Et c'est aussi ainsi qu'il a rencontré Jacob de chez eux et que les deux hommes sont devenus amis et qu'ils ont ensemble annoncé l'évangile à de grandes foules au Japon et à travers toute l'Asie, conduisant beaucoup d'âmes au salut. Tout cela grâce au témoignage de deux personnes qui, face à la souffrance, avaient répondu par l'amour et étaient allés bien au-delà du pardon. Bénir, ça commence dans le cœur. Ça sort par les lèvres et ça se démontre par mes gestes. Mais si tu ne le fais pas avec ceux que tu aimes, penses-tu être capable et disposé de le faire avec tes adversaires? Et je sais que ces choses-là sont impossibles, naturellement. C'est vraiment par l'esprit qu'on arrive à les faire. Mais je t'encourage à pratiquer avec ceux qui sont proches de toi. Dis-leur que Dieu te protège, que Dieu te donne la paix, que Dieu te remplisse de joie, de la connaissance de sa volonté. Puis ce matin, peut-être après le culte, tourne-toi envers la personne assise à côté de toi, puis dis-lui quelque chose que Dieu te met là, sur le cœur. Dis-lui, commençons à prononcer les bénédictions de l'Éternel. Jésus m'appelle à bénir ceux avec qui je suis en conflit. Cette attitude de bienveillance dans mon cœur à l'égard de l'autre reflète son cœur et à quel point j'ai été béni à travers l'Évangile. Prions. Seigneur, c'est fou comment un bout de phrase dans ta parole peut tellement nous bouleverser, peut tellement mettre en lumière les dispositions cachées de mon cœur, mais en même temps peut tellement me transformer, peut tellement être puissant pour renverser le mal et accomplir ton œuvre, Seigneur. Seigneur, ce matin, je t'avoue, je te confesse mon égoïsme, mon désir d'être bien, ma préoccupation avec ma petite personne. Seigneur, je reconnais. J'ai besoin profondément que tu viennes changer mon cœur, me libérer de moi-même. Que tu viennes, Père, aussi me fonder, m'enraciner dans l'amour du Seigneur Jésus. Que tu viennes me révéler à quel point je suis béni. Je t'encourage, mon frère et ma sœur, à prier ces choses. Demande à Dieu de te révéler à quel point il t'aime, à quel point tu es béni, et à quel point il veut se servir de toi pour bénir les autres alentours, faire une œuvre merveilleuse, comme on a vu dans la vie de Fuchida et de chez eux. Oui, Seigneur, par ta grâce, accomplis ces choses dans nos vies pour ta gloire. Amen.